France Inter.
L'invité au carré aujourd'hui.
Laurence Marandola, paysanne en Ariège et ex-porte-parole de la Confédération paysanne.
France Inter. La Terre au carré. Mathieu Vidard.
Août 1999, dans la chaleur estivale de Millau, dans l'Aveyron, le chantier d'un futur McDonald's est envahi. Des éleveurs de brebis s'y rassemblent, rejoints par des citadins venus en renfort. Ce ne sont pas des manifestants ordinaires, mais les défenseurs d'un symbole, le Roquefort, frappé par les représailles américaines après le refus européen de la viande aux hormones. Le démontage partiel du fast-food se fait dans une ambiance presque bon enfant, mais l'État réagit avec brutalité. 5 paysans, dont José Beauvais, sont envoyés en prison. Une photo fait le tour du monde, l'homme à la moustache, menottes au poignet, les mains levées et le sourire aux lèvres, le visage de la révolte et de la résistance à la malbouffe. En quelques jours, les dons affluent, la mobilisation enfle, relayée par le web. Millau devient un épicentre, une onde part de l'Aveyron, traverse la France, l'Europe, puis l'océan. 3 mois plus tard, à Seattle, l'Organisation mondiale du commerce se réunit pour discuter des échanges agricoles. Dans la rue, une foule venue de 80 pays bloque l'ouverture du sommet. Parmi elles, les figures de Millau croisent à celle des fermiers américains, des militants écolos, des activistes du Sud global. Ensemble, ils dénoncent une mondialisation sans garde-fous où les règles commerciales dictent ce que l'on sème, ce que l'on mange, ce que l'on devient. Les négociations échouent, le sommet est un fiasco, mais dans l'échec, une victoire s'écrit, celle d'une société civile mondiale capable d'interrompre les tractations entre puissants. L'agriculture longtemps marginalisée redevient centrale. Entre Millau et Seattle, en quelques mois, une ligne de résistance s'est tracée. En cet automne 1999, l'assiette est devenue un levier politique. Bonjour Laurence Marandola.
Bonjour.
Où étiez-vous en 1999 pendant ces mobilisations altermondialistes ?
Et j'étais en Bolivie.
Déjà ?
Déjà.
Vous en gardez un souvenir particulier de ça ?
Non, je pense qu'à ce moment-là, j'étais assez déconnectée des informations internationales en direct. Du coup, c'est après coup, j'ai pris pleinement conscience de ce qui s'est passé, en particulier au premier Forum social mondial à Porto Alegre, où il y avait José Beauvais et beaucoup d'autres monde. Où là, j'ai pu y venir depuis la Bolivie avec des collègues boliviens, du coup. Et là, j'ai pris la mesure vraiment de ce qui se passait au niveau international. À ce moment-là, j'étais un peu déconnectée, très à fond, dans, là où j'étais en montagne. En Bolivie.
On va y revenir avec vous sur votre parcours, vous qui êtes éleveuse paysanne donc en Ariège, qui avait été jusqu'au mois de mai dernier la porte-parole de la Confédération paysanne. La question agricole qui occupe évidemment une place centrale aujourd'hui dans un contexte d'effondrement massif à la fois du nombre de paysans mais aussi de la biodiversité. Laurence Marandola, votre histoire commence le 29 septembre 1969 et voilà le petit journal de votre naissance préparé rien que pour vous par Valérie Ayestaraille.
Interactualité, Jean-Pierre David.
C'est officiel, M. Georges Pompidou arrivera le 24 février prochain à Washington pour une visite d'une semaine aux États-Unis. M. Debré confirme, service militaire ramené à 12 mois, l'appel sous les drapeaux à partir de 19 ans. Coup d'État en Bolivie, le président de la République, M. Salinas, a été renversé aujourd'hui par une junte militaire.
Ce coup d'État du général Ovando Candia en Bolivie, on l'attendait depuis avril dernier, exactement depuis la mort dans un accident d'avion du général-président Barrientos. Ce que Candia voulait, c'était se faire élire régulièrement chef de l'État grâce au vote paysan, au terme normal de l'actuel mandat présidentiel en 1970.
Le Moyen-Orient, l'Amérique latine, les négociations sur la limitation des armements nucléaires au centre de la conférence de presse de M. Nixon.
Les vendanges ont commencé dans le Médoc. D'ores et déjà, les viticulteurs sont satisfaits. Les premières constatations permettent de penser que la récolte sera belle et bonne. On pense même que 1969 sera un excellent millésime.
Voilà, notre journal est maintenant terminé. Bonsoir.
Laurence Marandola, très bon millésime 69, ben oui, c'est l'année de votre naissance. Évidemment, réaction sur l'actualité de ce 29 septembre, qu'est-ce que vous retenez ?
Ce que je retiens, c'est le coup d'État forcément en Bolivie. C'est l'un parmi des dizaines de coups d'État qui ont eu lieu en Bolivie. Oui. Des époques très très sombres qui ont duré longtemps, des décennies. Sous ce grand plan Condor, si on le résume comme ça, là, un plan international. appliquée en Amérique latine pour éviter supposément la montée du communisme et qui a été un drame absolu pour les populations d'Amérique du Sud, chiliennes, boliviennes, péruviennes, paraguayennes, et j'en passe.
Ouais, coup d'État donc en 69, qui sera suivi d'un autre coup d'État en 1971.
En 73, ça n'a pas cessé. Moi, j'ai connu la Bolivie juste à la fin de ces périodes tumultueuses, et j'ai vu de mes yeux le retour d'un dictateur sous une forme pseudo-démocratique. C'est quand même... voilà, c'est des histoires politiques dramatiques qui, en plus, poursuivent 500 ans de pillage absolu de l'Amérique latine, de ses ressources, de destruction des territoires et des populations indigènes.
On va en parler avec vous, vous qui avez passé 16 années en Bolivie, mais qui êtes né en Haute-Savoie. On va reprendre le fil de l'histoire. Vous avez grandi à la Chapelle d'Abondance. C'est joli d'ailleurs ce nom, ça fait référence à quoi ?
Toute la vallée s'appelle comme ça, il y a le village d'Abondance et la Chapelle d'Abondance au-dessus. Je ne saurais pas vous dire exactement pourquoi ça s'appelle comme ça. Moi, Abondance, ça me fait... La première image pour moi, c'est celle de la race de vache,
ouais,
en fait.
C'est ça ?
Complètement.
Et votre environnement familial, alors, c'est quoi dans ce contexte ?
Alors, mes parents n'étaient pas agriculteurs. Mes grands-parents, plus ou moins, comme beaucoup de grands-parents, de personnes de ma génération, j'imagine, étaient en milieu rural. Pas du tout paysans, mais plutôt ouvriers ou même sous-ouvriers. Ma grand-mère en Haute-Savoie, elle était vachère, gamine en fait.
C'est quoi vachère ?
Eh bien, dans ces chalets, c'est une société très hiérarchisée, la Haute-Savoie, du début du XXe siècle et précédemment. Plutôt riche par rapport à d'autres montagnes. C'était les montagnes les plus riches au niveau agricole de France. Alors forcément, il y a la proximité avec la Suisse, il y a l'histoire de l'or blanc, du ski, enfin c'est en dessous de Chamonix, d'Avoria, pardon, c'est pas loin de la vallée de Chamonix et tout. Mais du coup, des sociétés très hiérarchisées, de la production de fromage dans les premiers labels de France, l'Abondance, justement, aussi, ouais, le fromage. Mais du coup, ce succès-là, il reposait sur une division du travail et surtout sur des gens qui travaillaient à peu près gratis. Ce qui était le cas des jeunes, le cas de ma grand-mère jeune, elle travaillait gratis dans ce chalet.
Elle s'occupait des vaches, c'est ça ?
Oui, c'est ça.
Toute la journée ?
Bah, elle allait aussi à l'école, ouais, mais elle donnait des coups de main tout le temps, à peu près gratuitement, ouais, je pense.
Et elle l'a fait toute sa vie, ça ?
Non, pas du tout. Après, elle s'est un peu... Elle a une vie très très compliquée, assez dramatique, mais elle a été placée ensuite jeune pour travailler dans un hôtel-restaurant. Ouais. Et puis après, elle a fait des études,
Elle en parle. Vous l'avez connue
bien sûr.
Elle en parlait de cette période.
Elle en parlait.
Où elle a été exploitée
carrément.
Une sorte d'esclavage moderne.
Et elle en a eu conscience plus tard dans sa vie, je pense. Elle le disait très clairement. Oui, complètement.
Et vous, vous disiez que vous deviendriez paysanne ou pas plus tard ?
Je l'ai beaucoup dit. J'ai beaucoup dit quand j'étais jeune que je voulais être vétérinaire.
C'est pas paysanne.
Non. Mais en même temps, au moment de la vérité du choix d'études, c'est pas ce que j'ai fait. Je suis partie pour faire de l'agronomie. Et en fait, clairement, avec deux objectifs que maintenant je peux relire mon histoire, qui était probablement de devenir paysanne, c'était toujours dans un coin de ma tête, et d'accompagner des agriculteurs. Plutôt qu'être vétérinaire, où il y a un côté un peu technique qui, voilà, j'ai des animaux aujourd'hui, j'ai un troupeau, c'est important, mais je pense que j'étais beaucoup plus à ma place comme paysanne que faire veto.
Mais ça, c'était enseigné en école d'agronomie ou pas ? Ce dont vous
non,
parlez,
non,
cette,
pas, non,
cette
non,
vision
pas
du monde paysan.
Moi, non. Clairement non. Mais moi, je savais pourquoi j'étais là. Je savais pourquoi je faisais ces études-là et quelle teinte je voulais leur donner, ce dont j'avais besoin d'apprendre pour, même si c'était... pas aussi conscient et construit qu'aujourd'hui, je peux le dire. Je sais que ce qui m'intéressait, c'était d'accompagner des paysans, en France ou ailleurs, et probablement un jour m'installer.
Ah oui, donc c'était quand même très particulier. C'est pas juste être paysan, c'était avoir aussi un rôle social, finalement,
autour de cette
profession. Oui. Pourquoi, d'ailleurs ? C'est lié à quoi, ça, ce regard-là ?
Je pense qu'il y a eu très tôt chez moi cette notion que les paysans sont largement exploités. Et ça ne m'allait pas du tout. C'est quelque chose d'inconcevable pour moi, l'injustice, ce genre de choses. Et que c'est à la fois... Enfin, c'est une espèce de dichotomie terrible. Que pour moi, ça a toujours été des gens marginalisés, exploités, dans leur grande majorité. Et d'autre part, que c'est un métier magnifique, aux prises avec le vivant, et absolument essentiel pour tous.
Donc il y avait une petite révolte, quand même ?
Oui, je pense
que vous
toujours,
aviez envie
par
de résoudre,
rapport à ces injustices, oui, complètement.
Et ça, justement, résoudre ces révoltes, enfin ces injustices plutôt, ça devait faire en France ou pas pour vous ? Vous aviez défini un lieu géographique où vous pourriez mener le combat ?
Non, j'étais très ouverte
open.
À plein de choses. J'avais très envie de voyager aussi. Je n'ai jamais construit une carrière, en fait, dans ma vie. Les choses, je les ai prises au fur et à mesure. Mais je me voulais me donner la possibilité de voyager, de voir des mondes différents, des cultures différentes, des façons de faire de l'agriculture différentes.
Et comment on passe de l'école d'agronomie alors à la Bolivie? Il y a un lien direct ou pas?
Oui. Oui, donc il y a un stage de fin d'études, là, de 6 mois. Et que moi, qui souvent se fait à l'étranger. Et moi, là, c'est un rêve de gosse. En fait, je suis une vraie montagnarde. On le disait tout à l'heure, j'ai jamais vécu, sauf à Paris, sauf pour mes études, à moins de 1000 mètres d'altitude, en fait, dans ma vie. Et du coup, j'avais une fascination, mais une fascination que je ne peux pas m'expliquer pour la cordillère des Andes. Et du coup, c'est comme ça que j'ai absolument cherché, démarché un stage pour aller dans la cordillère des Andes. Et à l'époque, c'était extrêmement simple. Le Pérou était en guerre avec le Sentier Lumineux, c'était impossible. Et du coup, il restait l'Équateur et la Bolivie. Et j'ai eu 2 réponses positives pour la Bolivie. Et voilà, la vie, elle se fait des fois comme ça.
Et vous étiez outillé pour supporter le mal de l'altitude. Parce qu'en Bolivie, il faut être bien accroché quand
j'en
même.
J'en ai jamais souffert. Et mon arrivée en Bolivie s'est faite dans le Nord Potosi, qui est une région de haute montagne, dans des communautés
Quelle
indigènes.
Altitude
entre 4000 et 5000, je dirais, par
ça,
là.
Ça voilà. Rigole pas, là. Hein.
Et puis sec et tout.
C'est des conditions bien particulières.
Oui, c'est pas des conditions faciles, mais j'en ai jamais souffert plus que ça physiquement. Sauf qu'on peut pas faire du sport de haut niveau.
Oui,
ça c'est sûr.
Le running du matin, c'est pas possible.
Non, ça non. Ouais.
Donc vous arrivez, mais comment en fait vous arrivez dans cette communauté
Parce que du coup, j'avais trouvé ce stage avec une ONG française qui soutenait ces organisations et ces communautés paysannes indigènes. En vrai, je ne savais pas où je mettais les pieds.
D'accord.
En vrai.
J'avais vu un peu des choses. À l'aventure.
Et j'y vais complètement avec un intitulé de stage, une adresse. Je déboule là-bas et ça a été le choc culturel de ma vie. Enfin, en vrai, j'avais 20 ans. Des endroits où personne parlait espagnol, juste quechua. Vraiment dans des communautés indigènes avec leur culture. Vraiment. Et ça s'est... Je ne sais pas pourquoi ni comment, très très bien passé. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai des liens très forts avec des gens de
là-bas. Donc vous avez été
intégré,
comme
on peut l'être en déboulant comme ça, mais effectivement, accepté, ça c'est sûr.
Mais vous arrivez, coucou, je vais faire quoi, une thèse d'ailleurs?
Ouais, enfin d'abord un stage et puis après un début de thèse,
Et on vous laisse vivre
voilà,
à 4500 mètres d'altitude.
Ouais.
Et là, vous êtes heureuse?
Ça a été un vrai choc culturel. Je me suis souvent dit que si j'avais eu 10 ans de plus, peut-être ça ne l'aurait pas fait. Ça m'a beaucoup déconstruit, en fait. Déconstruit
par rapport à
culturellement.
Quoi
par rapport à toutes les références culturelles. Ici, on est quand même imprégné d'une espèce de culture occidentale, judéo-chrétienne, enfin, un peu tout ça.
Normal.
Normal. Et du coup, là, tout ce que je savais jusque-là, ce n'est pas ça qui se passait là-bas. Les valeurs, ce n'est pas les mêmes. Et du coup, il faut accepter cette déconstruction-là. Et ça s'est fait.
Vous étiez plastique, comme on dit.
Je ne sais pas si c'est le mot, mais en tout cas, j'ai accepté ces différences, des choses qui m'ont beaucoup choquée les premiers jours.
Quoi, par exemple?
Un des tout premiers jours, peut-être la deuxième, où je suis arrivée, il se trouvait que c'était une très grande fête. C'était le 21 juin, là. Moment du passage à l'hiver, enfin ouais. Et du coup, il y a eu un sacrifice de lama. Pour moi, c'était déjà très dur à être là, physiquement, très prête. Ils ont ramené un lama, qui sont allés chercher en montagne, et qu'ils ont sacrifié. Là, c'est le genre de choc culturel total, qui était total pour moi. J'avais vu tuer des volailles chez moi, gamine et tout, mais là, vraiment, j'ai eu du mal. Et voilà, ce genre de choses. Et puis, j'ai pris le temps de se dire, OK, d'essayer de comprendre pourquoi ils le faisaient, ce que ça signifiait pour eux. J'ai mis des années à le comprendre vraiment. Et du coup, il y a une forme d'acceptation que des cultures sont comme ça et que c'est...
Vous en prenez soin des lamas, vous, maintenant? Parce qu'on va l'expliquer tout à l'heure, mais vous avez un élevage de lamas, donc il n'y a pas de sacrifice dans votre département de l'Ariège.
Non, il n'y a pas de sacrifice. Hein,
c'est une autre façon de s'occuper de ces animaux. Vous vivez un moment donc, en Bolivie où il se passe beaucoup de choses dans les organisations paysannes internationales. Vous parliez tout à l'heure de Porto Alegre au Brésil, ça bouge de partout, et puis on se réunit, quoi, c'est ça?
C'est ça.
Vous participez aussi à ces réunions, à ce moment-là?
En Bolivie, ça bouge aussi, en fait. Ça bouge aussi. De voir que dans d'autres pays, d'autres continents, les paysans bougent et mettre vraiment le doigt sur quelque chose qui est un drame pour l'agriculture et qui l'est aujourd'hui, qui sont ces accords de libre-échange, qui est cette ultra-mondialisation, libéralisation en particulier des produits agricoles et alimentaires, qui finalement flinguent des paysans partout sur la planète. Et du coup, j'ai eu la chance depuis la Bolivie à participer à ces réflexions, ces organisations, et du côté des organisations indigènes comme celle des organisations paysannes syndicales. C'est deux mondes un peu différents, ça, en Bolivie. Et du coup, de faire des liens avec les autres pays latino-américains, la création de l'Organisation latino-américaine des paysans, son lien avec la Via Campesina Internationale. Donc, depuis la Bolivie, c'est comme ça que j'ai un peu... Enfin, j'avais déjà largement entendu parler de la Confédération paysanne avant, en étant étudiante en France. Mais là, vraiment, depuis ce côté-là, j'ai fait ce lien et on voyait que ça bougeait. Et il y avait un élan et un espoir formidable de se dire que les paysans, on est absolument essentiels, organisés, on va pouvoir faire reconnaître notre travail et pouvoir être un maillon essentiel dans la gouvernance de l'ensemble de l'économie.
Est-ce que cet élan, il a porté ses fruits, selon vous? Si on fait un petit bilan là, rétrospectif?
Non, clairement, il y a une énorme déception depuis ces 30-40 dernières années. On n'en est pas du tout arrivé là où on est. Ce qui est toujours pour moi porteur d'espoir, c'est cette capacité d'organisation et de lien qu'on peut avoir entre organisations paysannes partout dans le monde.
La capacité de réunir les forces,
hein. Oui, complètement. Oui.
Ça, c'est pas mort.
Ça, c'est pas mort du tout.
C'est encore
la
très
Via
présent.
Campesina, qui est l'organisation des paysans au niveau mondial, en est la preuve vivante. C'est le plus grand mouvement social au monde. C'est plus de 200 millions d'adhérents. Partout dans le monde.
Et ça, c'est une façon aussi, à l'époque, quand vous êtes en Bolivie, d'entrer en politique ou dans le syndicalisme aussi. Vous disiez tout à l'heure, c'est travailler contre les inégalités, les injustices auprès du monde paysan. Vous êtes quand même de plein pied là-dedans, finalement,
oui,
à cette
époque-là. Oui, complètement. Ouais, ouais.
Vous faites vos armes à ce moment-là?
J'apprends beaucoup. J'apprends dans un contexte qui est très, très différent. J'ai expliqué des éléments du choc culturel. Mais finalement, ce qui détruit, qu'elles soient des communautés indigènes, paysannes, ou des syndicats, enfin, ou des paysans, c'est les mêmes choses, en fait. Les terres qui leur sont spoliées, l'accaparement des terres par l'industrie, par l'agro-industrie. Il y en a aussi en Bolivie, de l'agro-business. La République du soja, elle va jusqu'au contrefort jusqu'à une grande partie de la Bolivie. Du coup, ces mécanismes qui ont fait rentrer en Bolivie du blé nord-américain, de la poudre de lait française ou européenne, et qui détruit les producteurs locaux.
La question de l'eau aussi, j'imagine.
Exactement, la guerre de l'eau. Il y a eu la première guerre de l'eau, enfin, il y en a sûrement d'autres ailleurs, il y en a eu une très forte en Bolivie en 2000. Du coup, ces sujets-là sont exactement les mêmes. On veut nous faire croire qu'on est hyper différents et étrangers sur cette planète. On est un peu tous les mêmes, en fait.
France Inter. La Terre au carré. Mathieu Vidard.
Dans les années 70, l'envie d'une autre agriculture agite les campagnes. Écolos, gauchistes, exclus de la FNSEA, se retrouvent lors de manifestations symboliques comme au Larzac. François y participe. En 87, toutes ces tendances se regroupent afin de créer la Confédération paysanne. La gauche est au pouvoir, mais la politique agricole ne change pas.
Éliminer les plus faibles, c'était leur seule voie, qu'ils soient du côté du gouvernement, qu'ils soient du côté de la FNSEA. Avec tout le système économique, la banque, le système social à MSA, les coopératives, tout le système a fonctionné pour tout verrouiller. Pour nous, le seul moyen de réussir à renverser cette situation, c'était de s'appuyer sur la société à travers une redéfinition du rôle et de la mission des paysans, du rôle et de la mission de l'agriculture.
La voix de François Dufour, c'était en 2000. Il a été le quatrième porte-parole de la Confédération paysanne entre 1996 et 2000. Laurence Marandela, vous qui étiez encore il y a un mois la porte-parole de la Confédération paysanne. François Dufour, là, il dit qu'effectivement, la Confédération est née des exclus de la FNSEA. En fait, c'est un peu ça l'histoire, hein.
Une partie, enfin je dirais plutôt de dissidents de la FNSEA qu'on finit par se faire exclure, mais il y avait des voix dissidentes. Il faut savoir qu'il y a un peu un mythe en France, il y avait un mythe qui a été dénoncé à partir des années 70, d'une unité paysanne derrière un seul syndicat qui a fini par s'appeler la FNSEA, qui est née sous Vichy, la FNSEA.
On a fait une émission sur le sujet,
syndicat,
on peut la retrouver.
Ok, ouais. En syndicat unique. Du coup, quand il y avait des voix, des scissions, il y a eu des congrès où ça chamboulait fort, hein, à la FNSEA dans les années 60-70. Et du coup, il y en a eu des tendances dissidentes. Et par ailleurs, une tendance, alors je ne sais pas si on l'appelle dissidente de la FNSEA, mais celle des paysans travailleurs, qui était beaucoup plus radicale, qui a eu le mérite dans les années 70 de dire clairement pour la première fois l'agriculture subit aussi les conséquences du capitalisme. qui en fait est en grande difficulté à cause de ça. Ça provoque des disparitions massives de fermes, ça provoque l'aliénation. J'utilise les mots à dessein de l'époque en fait, de Bernard Lambert ou d'autres qui ont vraiment écrit et dit ça. L'aliénation des paysans qui n'ont plus aucune... On imagine un paysan libre sur sa ferme, autonome dans ses décisions, mais c'était plus ça du tout en fait, avec un modèle abominable qui est celui de l'intégration qu'on a beaucoup connu en particulier en élevage où en fait l'agriculteur il était pieds et poings liés à une entreprise qui lui fournissait si c'est de la volaille, des poussins, l'aliment, les médicaments et j'en passais des meilleurs et en fait il était juste un opérateur intégré.
Mais
et
vous parlez au passé, mais enfin, le système, il fonctionne encore un peu comme ça, non ?
Il fonctionne encore un peu comme ça. Moins, parce que du coup, c'est un système qui a vraiment été interdit à ce point-là, mais effectivement, c'est de ça qu'on parle aujourd'hui.
Ouais. Quand vous rentrez donc de Bolivie en 2003 en France, c'est à ce moment-là que vous entrez à la Confédération Paysanne, d'ailleurs, ou pas ?
Non, je suis arrivée pas avec un projet d'installation dans l'immédiat, ça aurait été utopique. Enfin, on arrivait de l'autre bout du monde, sans foncier, du coup, mes parents n'étaient pas agriculteurs, j'avais pas de terre. Et du coup, l'idée, c'était de se poser, de se réhabituer culturellement à la France, en famille.
Après 16 ans en Bolivie.
Voilà, en famille. Et forcément, on s'est installé en montagne, dans une zone très rurale, très agricole d'élevage. Et moi, j'ai commencé par travailler en Ariège dans des questions de pastoralisme, plutôt comme technicienne. Ce qui a été une opportunité pour remettre les pieds vraiment dans la ruralité, l'agriculture, l'élevage français, de plein fouet comprendre ces enjeux-là. Et puis, très vite, c'est revenu dans ma tête la question de s'installer. Et ça a été possible. Du coup, ça s'est formalisé en 2006.
Donc, vous avez commencé à la Confédération Paysanne, d'abord au niveau local, hein, dans votre cheminement, avant d'arriver au niveau national. Mais qu'est-ce qui vous a donné envie, vous, de vous impliquer plus dans le syndicalisme, alors exactement, puisque vous aviez quand même aussi ce projet paysan ?
Oui. Alors, pour être adhérent à la Confédération Paysanne, il faut être paysan. Voilà, c'est un statut très particulier, les syndicats agricoles, il faut être agriculteur pour adhérer à n'importe quel syndicat agricole. Donc dès que je me suis installée, j'ai adhéré à la Confédération Paysanne. La Confédération Paysanne m'a d'ailleurs accompagnée, comme on le fait toujours, dans mon projet d'installation, pour les paperasses, pour défendre le dossier dans les différentes instances. Voilà, ça c'est fait. Pour moi, c'était évident de me syndiquer pour des questions de défense collective, de mutualisation et de défense collective. Pour moi, c'est ça un syndicat. C'est de la défense collective, c'est faire valoir les droits des paysannes et des paysans, économiques, sociaux, techniques, tout ce qu'on veut. Et puis, évidemment que c'était la Confédération Paysanne, de tout ce qu'on s'est parlé précédemment, c'était le seul syndicat qui me correspondait. Et avec une autre dimension dont on n'a pas encore parlé, c'est que c'est le seul syndicat agricole qui n'est pas corporatiste en France. C'est-à-dire qu'il ne s'occupe pas seulement des questions agricoles et de défendre les agriculteurs contre le reste du monde. La Confédération Paysanne, dès sa création, on a parlé du Larzac, on vient d'entendre François Dufour, un projet d'agriculture paysanne qui est aussi un projet de société avec et pour la société.
Et donc d'écologie aussi, évidemment. Le syndicalisme, c'est ultra chronophage. Est-ce que ça a complètement bouleversé votre activité à la ferme, justement, au point de un peu déstabiliser votre travail ?
Alors, comme beaucoup de militants, en fait. Moi, j'ai adhéré au début. En Ariège, on a la chance qu'il y ait une confédération paysanne qui est forte, qui a de nombreux militants. Donc, on n'est pas obligé de choper les militants dès qu'ils arrivent. Des fois, ça arrive dans certains départements. Du coup, j'ai pris le temps de m'installer. Une installation agricole, c'est beaucoup de travail, en fait. À un moment, il faut être sur sa ferme, construire le projet, le construire économiquement, le construire techniquement. Sinon, ça va mal se passer. Ça, pour moi, c'était essentiel. Et du coup, voilà, il s'est passé quelques années avant que je prenne quelques responsabilités à la Confédération Paysanne de mon département. Et puis après, j'ai toujours été poussée, tirée. En fait, je n'avais pas plan de carrière non plus sur rien, ni sur ça en fait, tirer sur des sujets et tirer vers le national.
La ferme, il faut quand même le dire parce qu'on ne l'a pas encore évoqué, ce sont alors des plantes médicinales, vous faites des pommes aussi, c'est ça ?
Oui, un peu de
pommes.
Et
des lamas.
Oui.
C'est quoi l'idée de ramener des lamas en Ariège ?
Ah, je n'ai pas ramené de lamas en Ariège, ils y étaient en fait. quand on s'est installé, du coup, on a pu assez facilement accéder à une quarantaine d'hectares de foncier en montagne, entre 800 et 1200 mètres à peu près, et pouvoir accéder à l'estive au-dessus. C'était un terrain vertical, à peu près non mécanisable, très vertical, très embroussaillé. Donc il y avait deux options, c'était forcément de l'élevage. Enfin, il fallait une base d'élevage pour entretenir l'espace, en fait, le valoriser aussi. C'est tout l'intérêt de l'élevage, en fait. Ça, on pourra en reparler après.
On va en reparler.
Voilà. C'est prévu. Et du coup, sur un terrain pareil, c'était chèvre ou lama. techniquement. Mm-hmm. C'était la seule possibilité. Et notre histoire faisait que les lamas, enfin, j'avais aussi beaucoup travaillé avec des chèvres précédemment, mais bon, ouais. qu'on est allé vers des lamas, et les lamas, c'est les lamas qui étaient en Ariège, qui m'ont trouvé. On n'avait jamais ramené de lamas de Bolivie, ça ne nous aurait même pas traversé l'esprit. Ouais. Il y avait déjà des lamas avec des gens qui avaient cette vision d'utiliser le lama pour débroussailler. Alors, pour entretenir ces espaces très épineux et très non mécanisables.
Et uniquement pour ça ou y a
pas
aussi,
seulement. Alors après, nous,
c'est pour faire quoi alors?
Alors nous, on a valorisé le lama au-delà de ça. Effectivement, ça débroussaille. Nous, on a un troupeau en reproduction. Donc, on vend de jeunes animaux à des gens ou des paysans ou pas, qui ont des terrains à entretenir. Et pour la laine,
d'accord.
C'est une fibre exceptionnelle.
C'est pas pour la viande.
C'est pas pour la viande. En Europe, on n'a pas d'autorisation d'abattage et de consommation.
En Bolivie, on en mange.
En Bolivie, on en mange, tout à fait. Et c'est une viande très intéressante au niveau nutritionnel, voilà, qui n'a pas de gras et tout. Mais bon, en Europe, pas d'abattage. Donc le débroussaillage, la laine. Et on a aussi eu fait un peu de portage. Les lamas, c'est un animal qui porte sur son dos. On ne peut pas mettre c'est pas un animal de selle, on ne monte pas sur son dos, mais il peut porter du matériel sur des sentiers particulièrement difficiles. Donc on a eu fait aussi du portage par chez nous.
Donc c'est
aussi.
Eux qui vous nettoient le terrain finalement,
oui.
Parce qu'il y a peu de mécanisation, c'est ça dans votre ferme?
Notre terrain est trop vertical et pas du tout adapté à
donc
la mécanisation.
Donc impossible de mettre des engins.
Oui c'est ça.
Et eux ils font le boulot finalement.
C'est les lamas qui font le boulot, oui.
Ouais. Ce 24 mai 2023, vous êtes donc élue porte-parole nationale de la Confédération Paysanne. Première femme à occuper seule cette fonction, il y avait eu un précédent avec José Bové de 2003 à 2005 avec Brigitte Allain, mais c'était un binôme.
Ouais, et tout le monde l'a oublié. C'est terrible.
Pas José Bové. Hein.
Non, bah voilà. Brigitte
Allain.
Oui.
Ouais.
Et du coup, ça a fait que...
Pourquoi c'était compliqué de s'imposer à côté de lui?
J'étais pas là à ce moment-là, mais l'histoire a retenu globalement José Bové, la figure charismatique et tout. Et puis, voilà, ça s'est fait comme ça. Du coup, quand on est arrivé à me dire, Laurence, il faut que tu réfléchisses, porte-parole et tout. Du coup, ça a été très compliqué pour moi, cette proposition. J'ai mis des mois à pouvoir accepter de commencer à y réfléchir vraiment. Ça me semblait insurmontable. Enfin, une très grande responsabilité. On a souvent un vrai problème de légitimité, je vais le dire aussi simplement que ça. Mais tout le monde.
En tant que quoi? Que femme hein.
Je pense, un peu même les mecs à ce poste-là, je pense, mais en femme, toujours, davantage. Toujours.
Mais légitimité par rapport à qui alors?
Eh ben, comme ça. En général, cette question de ce sentiment de manque de légitimité, il est très très prégnant.
Mais par rapport au syndicat lui-même, par rapport au fait que vous soyez de la Confédération Paysanne?
Non. Enfin, je pense que je pense que si vous posez la question à d'autres responsables de syndicats, même de salariés, enfin, il y a beaucoup de femmes d'ailleurs, je pense qu'elles pourraient peut-être aussi un peu dire qu'à un moment, c'est pas que moi, le poste m'a été proposé, c'est une élection, j'y ai réfléchi, j'ai fini par candidater. C'est pas qu'à l'intérieur de mon syndicat, ils me jugeaient pas légitime, au contraire. C'est moi qui me posais un peu cette barrière de la légitimité. J'ai dû beaucoup travailler dessus. Et puis, c'est aussi pour cette raison que j'ai choisi, ça fait très longtemps, que c'était des porte-parole seuls. Et que moi, j'avais très envie de le faire collectivement. Mais je me suis dit, et tout le monde a dit, non mais là, il faut y aller absolument seul. Sinon, il va se repasser la même. Parce que même si on travaille plus collectivement que ça a pu l'être par le passé, le regard des journalistes, des ministres, de l'extérieur, marque les choses quand même.
Qu'est-ce qui se passe maintenant, puisque vous êtes parti du porte-parole-là, et ils sont trois?
Et bien justement, c'était un peu l'idée.
Vous
c'était
avez parti
de marquer
du leçon du passé?
Si, justement. Moi, je l'ai fait seul, pour ça, pour montrer ça, même si on l'a fait très collectivement, avec d'autres collègues qui ont aussi beaucoup fait des médias et tout, mais j'ai assumé seul cette responsabilité, elle est un peu lourde. Elle est enthousiasmante et tout, très nourrissante, mais elle est un peu lourde. Et on a préparé la suite comme ça, avec Équion A3, avec une femme. Et je pense que ce ne sera pas du tout la même situation qu'à l'époque de José Bové.
Ouais. José Bové, donc le colosse médiatique, l'homme du McDo, de la lutte contre les OGM. Quel lien vous avez avec lui, Laurence Marandola?
Rien, à peu près rien.
Mais pourquoi? Cette figure-là de la Confédération Paysanne, vous n'avez aucun lien avec lui? Même quand vous étiez porte-parole, il n'y avait pas de...
Non.
Vous pouvez nous dire pourquoi ou c'est...
Je peux dire deux, trois choses. On s'est croisés, hein. Mais alors du coup, on est tous les deux en Occitanie. Enfin, quand il est en Aveyron, c'est pas souvent. On a été très en désaccord sur pour la Nouvelle, sur la 69. Il était sur la liste de Carole Delga aux dernières élections régionales.
Ouais, conseil régional, donc
voilà.
Socialiste,
oui,
Carole Delga.
Et favorable à la 69. Qui est un de nos gros combats qu'on a menés là, contre l'autoroute à 69. Qui est une hérésie totale, c'est un vrai combat de société, c'est un vrai combat agricole. C'est plusieurs centaines d'hectares de terres agricoles, donc c'était évident que la Confédération Paysanne allait s'impliquer et continuer à s'impliquer dans les recours qu'il y a contre la 69, cette autoroute entre Toulouse et Castres. Et du coup, lui, il avait pris une autre position.
C'est impardonnable pour vous ?
C'est incompréhensible, surtout, ouais. Oui.
Et donc, ça a coupé vos liens ? Le peu qu'il y avait ? Très bien. On n'ira pas plus loin. Le fait d'être une femme seule à la tête de votre syndicat, ça a un peu fait jaser dans les chaumières, si on peut dire. Pourquoi, d'ailleurs ? Parce que le monde agricole a encore un problème avec les femmes, aujourd'hui ?
Je ne sais pas où ça a fait jaser dans les chaumières, en fait. Moi, je n'ai pas eu ce retour-là. J'ai pas eu ce sentiment dans les moments où j'ai eu à discuter, débattre avec les autres responsables des syndicats agricoles. J'ai pas eu ce sentiment-là, en fait.
Mais vous dites quand même féministe, ça fait trop peur dans le monde rural. Ça, c'est vous qui le dites.
Oui, 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 clairement. Mais pourtant, enfin, c'est une réalité. Je pense qu'on est porteur à la Confédération paysanne aussi de ces notions de féminisme, de place pleine et entière pour les femmes en agriculture. Aujourd'hui, 27% des femmes des agriculteurs en France sont des agricultrices. On milite pour que ce 30%, cette espèce de mixité au tiers, soit présente absolument partout, ce qui n'est absolument pas le cas. Moi, je me suis retrouvée quelques fois seule femme, où je me souviens d'une réunion à l'Élysée, où on était la profession agricole, on était exactement 40, il y avait 4 femmes. C'est ça, la vérité. Et du coup, cette place-là, il faut qu'on la prenne. Et du coup, c'était important que j'y sois, que je la prenne et que d'autres continueront à la prendre plus tard, absolument.
Ouais. Vous évoquez les homologues masculins qui ne daignent pas échanger un regard avec vous. La présence souvent nécessaire conjoint pour signer le bail, c'est des exemples que vous avez vécus quand même.
Alors, pas moi personnellement. Des homologues, enfin, par exemple, le patron de la FNSEA. Voilà, lui, ça ne le fait pas de pouvoir se parler, mais c'est peut-être juste parce que...
L'actuel,
oui, c'est peut-être
Rousseau.
Juste parce que je suis la Confédération paysanne. Je
ne sais pas si ça... Il ne vous regarde pas dans les yeux ?
Ouais, c'est ça.
C'est vrai ?
Après, la question d'avoir besoin de son conjoint pour signer un bail, moi, ça ne m'est pas arrivé. Sur mon installation, je me suis installée d'abord seule. Ensuite, mon conjoint m'a rejoint, une salariée. Moi, je n'ai jamais eu ces difficultés, personnellement. Mais des collègues femmes, des exemples comme ça, on en a à l'appel.
Donc il y a un grand combat quand même à mener encore sur ce front-là. Et la Confédération paysanne le prend en compte.
Complètement.
Ça fait partie
on le prend en charge depuis toujours. Ouais.
La Terre au carré. Mathieu Vidard sur France Inter.
Une nouvelle fois, le troupeau de Laurent Dallos a été attaqué. La brebis retrouvée morte ce matin est la 6e en 48 heures. Fait nouveau, hier soir, un lieutenant de louveterie habilité a pu procéder à un tir de défense simple à plus de 250 mètres. C'est la 9e prédation constatée d'un loup sur le troupeau de Laurent Dallos. La semaine dernière, la brigade mobile d'intervention sur les grands prédateurs était présente, mais sans résultat. La situation est donc difficile pour les agriculteurs du secteur.
France 3 Nouvelle-Aquitaine à Oloron-Sainte-Marie, c'était en mars 2024, donc dans les Pyrénées-Atlantiques. Laurence Marandola, vous qui êtes notre invitée au carré, ex-porte-parole de la Confédération paysanne, vous êtes installée donc en Ariège, vous avez fait vos armes d'ailleurs, en vous occupant, vous le disiez, des sujets liés au pastoralisme et à la prédation du loup, ce loup de la discorde. C'est une réalité évidemment sur le terrain pour les éleveurs et les éleveuses qui doivent faire face à la prédation dans de nombreux départements en plus. Hein, il y en a de plus en plus en France aujourd'hui. Quelle est pour vous la meilleure façon d'y répondre ?
La meilleure façon sera jamais. Il n'y aura jamais de solution parfaite. C'est peut-être ça le constat qu'on fait depuis une vingtaine d'années. C'est assez dramatique à dire. C'est des situations très très douloureuses pour les éleveurs, très très complexes, qui au début, sur les premières attaques, se teintent de beaucoup d'une charge émotionnelle très très forte. C'est dramatique de voir. Moi, j'ai été témoin de dérochement par l'ours. En Ariège, on a plutôt des ours, des brebis qui tombent, qui dérochent, qui tombent d'un rocher. C'est abominable. Des brebis, des mortes, des vivantes, des agonisantes, des blessées. C'est des situations insoutenables, même insoutenables pour des éleveurs qui avons l'habitude de soigner des animaux malades et ce genre de choses. C'est un sentiment de très grande impuissance pour les éleveurs, de très grandes difficultés. Il y a beaucoup de colère. Il y a toujours des phases comme ça, émotionnelles, de beaucoup de colère envers l'État, qu'on juge responsable du retour des loups ou de la réintroduction des ours. Ça, c'est tout à fait réel. C'est l'État qui a réintroduit des ours. Aujourd'hui, nous, à la Confédération paysanne, on se dit qu'il faut d'abord écouter cette souffrance, ces difficultés, y faire face, accompagner les éleveurs.
Il y a un problème de dialogue aussi. Hein.
Il y a un énorme problème.
Ça divise énormément sur le terrain. Hein.
Complètement. Il y a toujours une forme de... Peut-être un peu moins aujourd'hui qu'avant, mais quand même de déni sur les premières attaques, de dire « Mais non, les gars, c'est pas l'ours, c'est pas le loup. » Vous faites des films, c'est pas ça, mais vous, si vous gardiez mieux aussi, si vous travailliez mieux, ça vous arriverait pas. Ça, c'est des choses qu'on peut plus entendre. C'est pas possible que l'État nous dise « vous faites mal votre boulot quand on est éleveur ». Ça, c'est pas possible. Et aujourd'hui, du coup, pour tenter d'apporter la meilleure solution, je sais pas, mais en tout cas des solutions, des débuts de solutions, c'est la protection, en fait. La protection des troupeaux.
Financer la protection.
Du chien, des cabanes, des gardiens, des bergers, des vachers, des vachères. Aujourd'hui, il n'y a pas de protection. Il n'y a pas de financement de la protection pour tous les troupeaux bovins. Ça existe pour les brebis, mais pas pour les bovins. C'est scandaleux. C'est scandaleux. Elle est encore très, très, très insuffisante.
Et quid des tirs de prélèvement des loups, qui ont été simplifiés d'ailleurs l'année dernière? Quelle est votre position, vous, sur le sujet? Le fait de tuer des loups pour épargner les troupeaux? Est-ce qu'on résout le problème?
Non, on ne résout pas. Très peu le problème. Ce qu'il faudrait, c'est vraiment s'assurer de tirer des loups qui ont vraiment des comportements de prédateurs extrêmes. Parce qu'il y a certains individus qui ont ce comportement, et cela, enfin, la cohabitation, elle est carrément impossible. Il faudrait vraiment s'assurer de pouvoir tirer les loups qui ont vraiment un comportement qui est archi-incompatible avec des pratiques d'élevage. Au-delà, ce qui nous inquiète, nous, à la Confédération Paysanne, sur le thème de la prédation, c'est qu'en fait, l'élevage recule. Et qu'on nous dit, vous avez qu'à mettre des barrières, des super clôtures et tout. Mais c'est exactement l'inverse de pratiques d'élevage respectueuses des besoins de nos troupeaux quand ils sont en estive, en alpage, de pouvoir se nourrir de cette façon-là, sur de grandes étendues, et qui finalement ne sont pas complètement protégeables. On va mettre des murs en béton à la montagne ou de laisser les animaux dehors. Si la solution pour nous, c'est d'enfermer les troupeaux dans des étables, c'est non.
Laurence Marandola, la question de l'élevage, c'est aussi un débat récurrent dans l'émission. On en parle souvent entre les véganes et les carnivores. L'élevage qui contribue à 16% des émissions de méthane à l'échelle planétaire. Comment on réduit, par exemple, la production de méthane pour essayer d'avancer sur ce problème du réchauffement climatique quand même? Parce que l'élevage joue un rôle.
Ouais, alors ce qui est essentiel de comprendre, c'est qu'il n'y aura pas d'agriculture paysanne, d'agriculture respectueuse du vivant avec moins d'engrais, sans élevage.
Pourquoi?
Ça, c'est pas vrai.
Pourquoi?
Parce qu'on a besoin d'élevage pour faire des engrais organiques. Toute première chose. Si on veut se passer en partie d'engrais chimiques, alors on va pas se remettre à parler du cadmium et ce genre de choses, mais en fait, c'est ça qu'on parle quand même, ou d'azote, parce qu'en fait, les autres émissions de gaz à effet de serre dramatiques de l'agriculture, c'est les épandages d'azote. C'est un engrais. Si on met du fumier de nos animaux, voilà, c'est agronomiquement, on a besoin d'animaux. On a besoin d'animaux. Il y aura de la consommation de produits carnés, c'est indéniable. Il en faut peut-être un peu moins, mais mieux. Par contre, c'est de quel élevage on veut. C'est de ça dont il faut parler.
Et c'est quoi l'élevage idéal?
De la production animale industrielle, des fermes-usines, ça, on n'en veut pas. Ça n'a fait aucun sens à aucun point de vue. Ça demande d'importer du soja massivement. C'est des conditions d'élevage inacceptables. Voilà, c'est des fermes-usines. C'est des conditions d'abattage inacceptables. C'est une qualité finale des produits inacceptable aussi. Donc de l'élevage paysan plein air, des systèmes herbagés avec des haies, c'est ça l'élevage qu'il faut absolument promouvoir. C'est remettre de l'élevage sur tous les territoires plutôt que d'avoir l'avoir concentré à certains endroits. C'est ça le modèle d'élevage qu'il faut. C'est peut-être un peu moins. Aujourd'hui, on est quand même... Ce que je voudrais vraiment expliquer, c'est qu'on est dans un déclin de l'élevage massif en France. Massif.
Parce qu'il y a moins d'éleveurs?
Parce qu'il y a moins d'éleveurs et parce qu'il y a les bêtes, il y a moins de bêtes aussi. Il y a surtout moins d'éleveurs et ça c'est dramatique. Et l'autre question pourquoi l'élevage est essentiel, c'est que s'il n'y a plus d'élevage, d'herbivores, enfin de ruminants, il n'y aura plus de prairies dans ce pays. Qu'on est en train de perdre toutes les prairies, tous les haies, tous les bocages, s'il n'y a plus d'élevage, on n'aura plus de prairies.
Alors c'est toujours ce qu'on dit, mais pourquoi? Parce que évidemment d'un côté on essaye de lutter contre les émissions de méthane par exemple en ce qui concerne l'élevage et de l'autre côté la prairie c'est aussi un capteur de carbone.
C'est ça tout l'intérêt.
Bon, alors on ne comprend plus rien finalement.
C'est pour ça que ce que défend la Confédération Paysanne, c'est de l'élevage paysan, de l'élevage à l'herbe ou sur des parcours. On parlait d'estives, d'alpage ou dans des garrigues et ce genre de choses. En plus, ça limite les risques d'incendie, ça entretient et ce genre de choses. C'est de l'élevage à l'herbe. Je le redis, pour garder des bocages, des prairies, des haies, et on en a absolument besoin pour capter du carbone, pour garder l'eau dans nos sols, dans ce moment de dérèglement climatique, on a besoin d'élevage.
Laurence Marandola, parce qu'il y a plein de sujets que j'aimerais encore aborder avec vous, malheureusement il nous reste 5 minutes. La lutte contre l'accaparement de l'eau, c'est un autre combat que vous avez mené. Alors ça a été vraiment en plus pour vous le baptême du feu. Vous êtes arrivé comme porte-parole de la Confédération Paysanne, bim, Sainte-Soline. La Confédération qui avait été ciblée d'ailleurs par des attaques, à la fois du ministère de l'Agriculture et de la FNSEA. De la FNSEA qui avait demandé votre éviction des chambres d'agriculture après les mobilisations contre les méga-bassines. Comment, en tant que syndicat, vous avez vécu cette séquence-là?
Alors, on l'a vécu, ça a été extrêmement compliqué, mais on n'a jamais douté une seconde de la place de notre syndicat dans ces luttes-là. De revendiquer encore et toujours le partage de l'eau dans son ensemble, entre l'usage eau potable et tous les usages de l'eau, et le partage de l'eau entre agriculteurs. Moi, ma ferme, je suis en Ariège, frontière avec les Pyrénées-Orientales, dans des zones qui peuvent être, avec des années très très sèches, assez dramatiques. Je vois très bien ce que ça veut dire. Il n'y a pas d'agriculture sans eau. Ça, on en est pleinement d'accord.
Vous l'avez vécu
pour autant,
même
je l'ai vécu moi-même sur ma ferme, avec mes animaux,
pas d'eau.
Ouais, complètement. Je ne parle même pas des cultures. Voilà, ça, c'était
mort. Et qu'est-ce que ça crée alors comme stress à la fois
hydrique
et humain ?
Alors, quand on a des bêtes, ne plus pouvoir abreuver ces bêtes, c'est un stress colossal. Pour nous, l'eau, l'utilisation dans l'agriculture, il y a trois priorités. Il y a l'abreuvement des troupeaux, évidemment. Il y a d'irriguer des cultures alimentaires essentielles, en particulier fruits et légumes. Et puis, pensez aussi à la production de semences, pour continuer à semer les années suivantes. C'est ça qui devrait être la base, en plus évidemment du respect profond du cycle de l'eau et du partage de l'eau entre les bassins et entre tout le monde, qui devrait être la logique pour gérer l'eau dans ce pays. Et c'est absolument pas le cas. Les politiques actuelles, le système des méga-bassines, c'est pour ça qu'on est allé à fond dans ces luttes-là, pour mettre au cœur du débat la question du partage de l'eau. C'est notre responsabilité syndicale, c'est défendre l'ensemble des agriculteurs, peut-être contre un tout petit pourcentage qui veut s'accaparer l'eau dans ces méga-bassines. En plus de la technique du pillage de la nappe phréatique et de rompre le cycle de l'eau qui est dramatique, c'est quand même un accaparement. Sainte-Soline, c'est 12 agriculteurs.
Donc, un sujet très clivant au sein du monde de l'agriculture. On va l'entendre d'ailleurs dans ce reportage de France 3 Nouvelle-Aquitaine en septembre 2022.
L'eau est un facteur indispensable pour assurer nos systèmes fourragers et être de produire de façon autonome sur l'exploitation.
Avec une sécurisation de système comme ça, on est beaucoup moins dépendant des marchés extérieurs.
Logique économique contre bon sens écologique, la sécheresse subie cette année a renforcé les convictions des opposants.
C'est pas avec des bassines où on va faire des réserves, où on va pomper dans la nappe à un moment donné, que ça va permettre de changer le problème. Si on veut arriver à avoir un meilleur accès à l'eau et un meilleur partage de l'eau.
Il en faut pour l'eau potable, il en faut pour les éleveurs, il en faut pour d'autres usagers et il en faut aussi pour la nature.
Et on entendait entre autres Nicolas Giraud, l'ex-porte-parole de la Confédération Paysanne, qui avait été convoqué d'ailleurs par la gendarmerie en 2023 en tant qu'ancien porte-parole national, et convocation qui faisait suite aux mobilisations de Sainte-Soline en octobre 2022 et 2023. En tant que syndicat, Laurence Marandola, donc la Confédération Paysanne, discute avec les organes de l'État. Quelles sont vos relations avec les ministères quand même aujourd'hui?
Aujourd'hui, c'est du minimum syndical.
S'il fallait dans les coulisses un petit peu de vos rapports avec le ministère de l'Agriculture, en l'occurrence.
Eh bien, le ministère de l'Agriculture, la ministre actuelle et ses prédécesseurs, clairement, ne sont pas les interlocuteurs de l'ensemble du monde agricole dans ce pays.
Ils sont les interlocuteurs,
de qui, globalement de la FNSEA et d'un modèle agro-industriel. Ça a toujours été, on parlait d'un modèle de co-gestion entre les gouvernements successifs et la FNSEA. Et aujourd'hui, c'est même complètement décomplexé. Enfin, ça en est à des niveaux indignes de la fonction d'une ministre de l'Agriculture. D'écouter à ce point un seul syndicat qui, en plus, c'est quand même a largement diminué en importance au résultat des élections professionnelles agricoles de janvier dernier. Du coup, c'est complètement incompréhensible et c'est un non-sens absolu. Non, c'est des relations difficiles. Difficiles parce qu'il y a un deux poids, deux mesures. En tant que syndicat, on a été, et on l'est toujours, largement malmené par des procès, de la répression. On n'a jamais vu la FNSA, il y a deux semaines, a mis 6 tracteurs devant l'Assemblée nationale. Et les ministres sont allés les saluer. Et voilà, nous, on ne peut même pas aller mettre un drapeau devant l'Assemblée nationale. Il y a vraiment une connivence absolue et dramatique pour la majorité des agriculteurs, puisqu'en fait, ça répond qu'aux besoins, qu'aux revendications d'une minorité d'agriculteurs.
Mais est-ce que le monde paysan, aujourd'hui, c'est complètement binaire ? C'est-à-dire, d'un côté, les grands agriculteurs sur des surfaces de plus de 200 hectares, et de l'autre côté, les petits. Est-ce que c'est un monde binaire ou pas, le monde de l'agriculture aujourd'hui ?
Ça n'a pas forcément à voir seulement avec la taille des fermes. Ça a à voir avec le modèle de la ferme. Je ne sais pas s'il est binaire, il y a forcément des nuances, mais il y a des gens qui sont engagés dans des démarches que nous, on appelle plutôt d'agriculture paysanne, avec ces questions de respect du vivant, d'autonomie de décision, de transmissibilité des fermes, de lien avec la société, et puis un modèle agro-industriel qui va très vite et qui, pour survivre, en fait, continue à s'agrandir chaque fois plus. C'est ça, ce qui se passe, en fait. C'est que le système agro-industriel, il ne va pas si bien que ça. Des faillites de fermes, il y en a dans tous les systèmes, y compris dans les très grandes fermes, qui pourtant sont largement subventionnées, ce qui n'est pas le cas des plus petites fermes.
Mais Laurence Marandola, aux dernières élections, donc, vous avez fait 20% des suffrages, 20,49%, ça fait trois chambres agricoles. Il y a eu Guyane, Corse
et Ardèche.
Pourquoi vous n'arrivez pas à mobiliser plus aujourd'hui, face justement au mastodonte de l'agro-industrie ?
C'est déjà le système, le scrutin est fait par et pour la FNSEA. C'est historique, ça date de très longtemps.
Donc il faudrait changer le scrutin
déjà ? Oui, il n'y a pas de proportionnel.
Vous y travaillez ou pas ?
On y travaille depuis toujours.
Et vous n'y arrivez pas ?
Et on n'avance pas d'un millimètre. On a même une crainte énorme aujourd'hui, c'est que les résultats sont ce qu'ils sont. C'est quand même un agriculteur sur cinq qui a voté pour la Confédération paysanne. Évidemment, on aimerait qu'il y ait plus d'adhésion à ce projet-là. Mmh. Et on attend avec impatience de savoir comment le ministère a toujours pas jugé comment il va répartir les financements du fonctionnement des syndicats entre syndicats agricoles. Et on espère que ça se passera correctement en fonction du résultat de chaque syndicat.
Est-ce que vous avez réussi à résoudre certains problèmes sur le front de l'injustice paysanne, Laurence Marandola ? Puisque c'était ça votre objectif en allant, par exemple, en Bolivie.
Je pense que je ne sais pas s'il y a eu des grandes victoires, mais en tout cas d'avoir posé le sujet sur la table tout le temps. Mmh. C'est les difficultés des agriculteurs en France. Enfin, c'est comme un agriculteur sur cinq en dessous du seuil de pauvreté en France, des suicides tous les jours, tous les deux jours en France, d'avoir mis ça sur le devant de la table toujours et que toutes les propositions qu'on fasse au niveau politique prennent en compte cette situation, ça c'est une satisfaction.
Merci beaucoup d'être venu aujourd'hui au micro de La Terre au Carré. Vous étiez notre invité au Carré. On termine avec le répondeur.
Bonjour, Pierre à Paris. Mardi, nous avions Bloom qui nous apprenait beaucoup de choses sur ce qui se passe dans les océans, notamment la surpêche, j'en passe. Entre-temps, j'ai appris que cette responsable avait été très 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 embêté au niveau de son appartement. Je lui souhaite bon courage pour continuer son combat. Jeudi 5, de nouveau quelqu'un de très 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 bien de l'association Foodwatch qui nous apprend beaucoup de choses sur le cadmium et les différents produits qui peuvent contaminer des denrées alimentaires et autres. Merci à elle et bon courage à La Terre au Carré avec Mathieu Vidard.
Geneviève de la Lampaterie dans l'Orne, merci beaucoup pour cette émission, merci beaucoup pour ce livre que je vais m'empresser d'acheter et offrir à mon député de l'Orne qui n'est pas très au courant de tout ce qui se passe au niveau de l'agriculture. Alors je vous dis un grand merci.
Bonjour La Terre au Carré, c'est Jackie de Nantes, agronome, 60 ans. Je suis votre émission sur Foodwatch. Je trouve que la personne a raison sur pas mal de sujets. Je m'étonne cependant que depuis plusieurs années, on n'ait pas d'études qui comparent finalement l'état de santé de la population qui consomme par exemple exclusivement de l'agriculture biologique comparée au reste de la population. Voilà, merci.
Bonjour, c'est Christine de la Creuse. Voilà, je viens d'apprendre que Claire Nouvian avait été intimidée, entre guillemets, intimidée par des abrutis. Je suis de tout cœur avec elle et j'espère qu'un jour, on aura un gouvernement assez sérieux et assez courageux pour nous débarrasser de toute cette mafia. Merci pour vos émissions.
Bonjour, je m'appelle Francisco, j'appelle de Haute-Pyrénées. Je suis un supporter d'une jeune femme qui veut s'installer sur une commune qui s'appelle Calavante, pas loin de Tarbes. Elle veut s'installer éleveuse de poules pondeuses bio. Et donc, avec le maire, ça marche très bien. Avec la banque, ça marche très bien. Tout va très bien, sauf que dans le conseil municipal, il y a des gens qui sont pas d'accord parce que je pense qu'il y a des conflits d'intérêts. Ils essayent de l'empêcher de s'installer sur cette commune. Et il y a même une pétition qui circule comme si c'était un élevage extensif. Il s'agit de 50 à 200 poules maximum. Je croyais qu'à la campagne, il y avait des gens sympas. Mais non, il n'y a pas que des gens sympas à la campagne. Merci et continuez. Au revoir.
Drôle de conclusion. Merci en tout cas pour vos messages. 01 56 40 45 45.